Dans son essai sur le roman contemporain transgressif, Sabine Van Wessemaël fait l'inventaire des écrits subversifs de la postmodernité en identifiant presque exclusivement des auteurs masculins. Les textes de Beck BD, Houellebecq, Palahniuk, Welsh, Ellis et j'en passe tiennent donc la vedette de son essai avec quelques mentions rares mais bien méritées à Virginie Despentes. En ce qui a trait aux pionniers de cette pratique transgressive, Van Wessemaël pose en exemple Bataille et Sade. Toutefois, cette pratique de la transgression, qui est loin d'être neuve, n'est pas non plus seulement masculine. Pourquoi les écrits féminins du passé et du présent n'ont pas leur place dans cette analyse sur la transgression? Ne pourrait-on pas postuler que les incursions féminines dans une sphère monopolisée par les hommes seraient, de par son essence même, transgressives? Ces pratiques de subversion textuelle chez les femmes ne sont pourtant pas rares. On aurait pu, par exemple, citer le travail de Marguerite Porrété, qui fut condamnée au 13e siècle pour son énigmatique ouvrage intitulé, vous allez voir, le titre est très long, « Le miroir des âmes simples et anéanties » et qui seulement demeure en vouloir et désir d'amour. Mais si on s'étonne peu que la parole subversive féminine a été répudiée au 13e siècle, le fait qu'elle soit, encore de nos jours, passée sous silence, choque davantage. Nos contemporaines séditieuses font l'objet de trop rares études et sont de fait menacées de sombrer dans l'oubli. Qui de nos jours, outre nous peut-être, femmes ingouvernables, lit encore Eva Sénécal, Medjay Vizina, Madeleine Gagnon ou Jovette Bernier? Bien peu de gens y vont sans dire. C'est dans une volonté de restaurer la mémoire de cette sororité subversive que je me propose d'étudier les écrits de deux écrivaines ayant un parcours de la transgression aussi riche qu'exemplaire, Nicole Brassard et Louki Bersianic. Le cas du Désert mauve, paru en 1987 aux éditions de l'Hexagone, et de Le Guélion, publié en 1975 aux éditions de La Presse, m'apparaissent particulièrement intéressants. D'abord par leur remise en question singulière des méta-récits dominants, ensuite par leur écriture palimpseste et leur hybridité formelle, et finalement par leur exploration et leur réappropriation du langage. Bien que leur inscription dans le postmodernisme semble au premier abord comme aller de soi, il me semble nécessaire de nuancer leur appartenance au courant. Car de les faire entrer dans une catégorie instaurée par un cercle de littérateurs masculins vient en quelque sorte annuler l'appropriation symbolique de cette écriture transgressive proprement femme. La notion d'hybridité du genre ne s'arrête pas ici à la littérature et se déploie plus largement au niveau du gender. Elle se veut excentrée, autonome et intrinsèquement transgressive. Je cite Claudine Potvin à ce sujet. En pratiquant l'hétérogène et l'hybridisme et en refusant l'immobilisme et la fixité des règles et des conventions génériques établies, ces écrivaines entendaient se donner une langue et un code qui leur permettaient de s'échapper des cadres littéraires traditionnels élaborés en territoire masculin, de les repenser en termes utopiques tout en repositionnant les genres féminins à l'intérieur de la théorie du gender. En avance sur leurs consorts françaises, mais en retard sur leurs voisines anglo-saxonnes, les militantes féministes québécoises ont fait l'objet de nombreuses études dans le domaine des sciences humaines et sociales. Mais les écrivaines féministes, elles, œuvrant en périphérie, ont beaucoup moins retenu l'attention des chercheurs. En effet, selon Lucie Lequin, on considère plutôt séparément le mouvement des femmes de l'écriture des femmes. Pourtant, si les militantes se sont démarquées par leurs gestes audacieux, les premières écrivaines portent souvent, comme leurs descendantes, les paroles de la transgression. Ainsi, se remémorer leur legs culturel et reconnaître la pertinence du travail passé de nos consœurs écrivaines est essentiel pour comprendre le féminisme d'aujourd'hui. Plus encore, leur étude est nécessaire pour élucider les transformations d'une littérature féminine vers une littérature pour et par les femmes. Comme le dit Nicole Brassard dans La version des femmes du réel, une femme qui écrit et qui publie transforme toujours, quelque part, un peu de ce que chaque femme imagine d'elle-même et des autres. Donc, commençons avec Le Guélion. Louki Bersianic, née Lucille Durand en 1930, fait partie, comme Nicole Brossard, de cette nouvelle génération de femmes lettrées formées au Collège classique. Suite à l'obtention d'une maîtrise en lettres françaises à l'Université de Montréal, elle se met à écrire pour la radio la télé, le cinéma et participe à de nombreuses revues. Bien que comme Brossard, elle a écrit énormément de poésie, très peu de ses poèmes ont été publiés. Louki Bersianik représenterait, selon André Ferretti, un des secrets les mieux gardés de la sphère littéraire québécoise. C'est avec Le Yellium, son premier roman, qu'elle se fera davantage connaître. Son humour tranchant, aussi jouissif qu'incisif, sert une parole rebelle qui s'oppose de façon virulente au méta-récit patriarcal. À l'instar de Brossard, Bersianik se lance dans un genre hybride, à cheval entre la théorie et la fiction, qu'on appelle théorie-fiction, empruntant aussi bien à la poésie qu'à la parodie. Le Yellium se présente comme une réécriture des évangiles, une anti-bible. La brique de presque 800 pages est ainsi découpée en trois parties, évoquant l'Ancien, le Nouveau Testament et l'Apocalypse. Le récit va comme suit. Une extraterrestre débarque sur Terre à la recherche d'une planète positive où elle espère enfin trouver un mâle de son espèce. Le Yellium est un dieu femme issu de la Sainte Trigénie, fille de Wangina, la mère éternelle, et de la cervelle suprême. À noter que le mot Trigénie renvoie à son concept de génilité, néologisme créé afin d'envisager la femme comme ni inférieure ni supérieure à l'homme, mais simplement différente. L'intertextualité en lien avec le texte sacré ne vient cependant pas seule, car on trouve également une multitude d'appels ironiques aux figures marquantes du patriarcat, comme Freud, qu'elle appelle Saint Siegfried, et Stendhal, qu'elle affuble du joyeux surnom Stadanal. Aussi nombreux sont les renvois aux héroïnes femmes de fiction ou de chair. La Sagouine, Alice au Pays des Merveilles, Sylvia Plath, Mani Koutaï, qui est une déesse autochtone, et la Statue de la Liberté, ainsi que plusieurs autres. L'œuvre se trouve donc fortement marquée par une culture femme en voie de reconnaissance, cette culture imprégnée par tous les champs sociaux. Tout au long de son exploration de la planète Terre, Le Yellium raconte les trajectoires de ses consœurs, Exil, Omicron, Delta Nu, Epsilon, Sigma et j'en passe. Cette dieu-femme donne la parole à ses terriennes aux profils et parcours divers. Ce dieu-femme écoute et s'étonne au lieu de professer sans cesse. En voilà une dignité qui, pour faire changement, ne manque pas d'humilité. Malgré la densité du livre, le rythme du texte est plutôt rapide. Les scènes, dialogues et modes d'énonciation s'enchaînent à une vitesse surprenante. Les allusions au théâtre sont par ailleurs abondantes. Bersianik se sert de l'intertexte théâtral pour souligner le jeu de faux-semblants instauré par la culture patriarcale. Ces injustices et disparités, loin d'être naturelles, démontrent-elles, sont le résultat d'une orchestration, d'une mise en scène déguisée en réalité. Je cite un extrait à ce sujet. C'est un assez long extrait. La scène s'éclaira par petites secousses lumineuses extrêmement rapides qui donnaient l'illusion à l'œil qu'elle tournait sur elle-même. Dans ce mouvement étourdissant de stroboscope, un immense globe terrestre absolument dégueulasse et tout dégoulinant fit une apparition saccadée. Il tournait lui aussi sur lui-même, tout en tournant autour de la scène. Une multitude de toutes petites filles, chargées sans doute de le nettoyer car elles étaient armées de brosses, de balais, de seaux, de torchons, la ceinturaient fermement en son équateur, tout en s'essoufflant pour suivre sa course effrénée. Elle semblait tenir à lui par une attraction toute terrestre. Parfois, l'une d'elles, n'allant pas assez vite, était éliminée du cercle cinétique et faisait une chute brutale sur la scène où elle se dissolvait en une petite flaque brune. Donc, dans ce passage, les femmes infantilisées sont des petites filles chargées de nettoyer une terre dégueulasse, tout en s'essoufflant pour se maintenir en orbite. Dès lors qu'elles ralentissent, elles chutent et se transforment littéralement en caca mou. Je suis vraiment fière d'avoir mis Cacamou dans mon... Ces femmes, esclaves d'une trajectoire qu'elles n'ont pas choisie, se retrouvent donc, au moindre faux pas, avilies de plus belle. L'humour cinglant de Bersianik occupe une place centrale dans son œuvre, modulant presque l'entièreté de son discours. Mais traditionnellement, l'humour n'est-il pas un ressort typiquement masculin? Ne répète-t-on pas à qui mieux que les femmes sont moins drôles, plus dramatiques et trop sensibles? L'auteur prouve tout le contraire. Et c'est grâce à l'ironie, au cynisme et à la dérision qu'elle critique les non-sens du patriarcat. Par exemple, au cours d'une discussion avec une de ses consœurs, Gamma Le Guillon délégitime un mouvement souverainiste élaboré entre hommes. Je la cite. « Je comprends les efforts de ton peuple pour conquérir son indépendance, et tes chants patriotiques me touchent beaucoup. Mais je m'intéresse davantage aux larmes de ta mère qu'à celles de ton peuple. Car à quoi servira-t-il à ce dernier d'être libre si la moitié des patriotes reste enchaînée? Et si les mères continuent à troquer leurs larmes de calcite contre des hors-d'œuvre et amuse-gueules de pacotille? » À plusieurs reprises, l'auteur fait allusion au fameux plafond de verre et parodie les misères du mariage. Une petite citation encore. « Au deuxième acte, dit Le Guillon, on apporta 4 murs de verre dans lesquels on fixa la jeune mariée à l'aide d'une chaîne. » Cette réécriture biblique est, pour Bersianic, l'occasion de tout renverser, de tout bouleverser, de la sexualité aux institutions en passant par le politique et les normes du genre. Dans un article intitulé « Réécrire le haut féminin », Lise Gauvin analyse la forme palimpseste privilégiée par Bersianic et montre à quel point celle-ci réussit à désactiver efficacement les incongruités les plus ancrées. Je cite Gauvin. « L'ironie de la forme ne rend que plus efficace la portée manifestaire d'un texte dont l'un des principaux enjeux est de jeter les bases d'une langue et d'une culture au féminin. » Ainsi, Le Guillon énonce-t-elle en fin de parcours « La transgression comme seule norme acceptable et seul précepte digne d'être suivi. Transgressez mes paroles et les paroles de tous ceux qui vous parlent avec autorité, dit Le Guillon. » En effet, ce que dit Lucky Bersianic, c'est transgresser est la seule solution pour se réapproprier le langage et plus largement le monde. Donc, je passe au désarmose. Parmi le boom d'auteurs féministes de sa génération, Nicole Brossard a été sans contredit une des figures les plus marquantes. Impulsant une panoplie de projets littéraires et culturels, travaillant une foule de collectifs et de performances, en plus de fonder un journal et une maison d'édition, elle a parallèlement eu une écriture très diversifiée, investissant à la fois poésie, dramaturgie, essais et romans. Son militantisme, tout aussi affermi que celui de Bersianic, s'inscrit pour sa part dans une exploration formelle teintée de désir et de sensualité. Mais bien qu'indéniablement différent de l'ouvrage de Bersianic, Le désamorphe de Nicole Brossard n'en transmet pas moins le même message. « Il faut absolument être belle », nous dit-elle. Le désamorphe est lui aussi divisé en 3 parties, explorant à son tour une écriture palimpseste. La première partie est constituée d'un livre en abîme intitulé « Le désamorphe ». Ce livre, écrit par une auteure américaine dénommée Laure Einstell et publié aux éditions fictives de L'Arroyo, est découvert au détour des rayons d'une librairie par une Québécoise, Maude Laure. On voit qu'il y a un jeu avec l'onomastique aussi. La lectrice développe un véritable amour pour l'énigmatique ouvrage et se donne le mandat de restituer la parole de son autrice en la traduisant. La deuxième partie, qui a pour titre « Un livre à traduire », se présente comme un dossier d'analyse, incluant les notes de lecture de Maude Laure, des recherches thématiques et lexicales, ainsi qu'un dossier appelé « L'homme long », qui dévoile quelques clichés du personnage au visage anonyme et de sa chambre d'hôtel. À l'hybridité textuelle du roman s'ajoute donc une hybridité visuelle. Outre le dossier photo, on trouve les deux couvertures des livres en abîme, celle du livre à traduire, Le désert mauve, et celle du livre traduit, Mauve l'horizon. Et Mauve l'horizon constitue cette troisième et dernière partie qui se donne à lire comme la traduction du livre trouvé par Maude. Dans un ouvrage dirigé par Maritza Savalloni, intitulé « L'émergence d'une culture au féminin », auquel Brassard et Bersianic ont par ailleurs participé, l'auteur de Le Guillon écrit « Une de nos missions fondamentales est de créer les réseaux culturels capables d'explorer le passé et le futur à la recherche de notre mémoire sans laquelle nous ne pouvons survivre. » Et c'est bien ce que Brossard se propose de réaliser à travers le désert mort. Restaurer la mémoire des femmes, inscrire leur discours dans un futur imminent et immanent. Maude Laure s'emploie ainsi à déchiffrer une parole femme singulière. Cette quête l'obnubile, l'obsède, l'excite, selon les mots de l'auteur, au plus haut point. À noter que pour Brossard, le mot « exciter » provient de « excitare », qui signifie « mettre en mouvement », faire naître et inciter. Dans la première partie écrite par Laure Einstel, le personnage de Mélanie manifeste sa peur de ne pouvoir dire. Et cette peur en annonce une autre, celle de ne pouvoir se faire comprendre. Je la cite. J'étais maintenant ancrée dans la peur de l'indicible, dans la fureur des mots. Sans le vouloir, j'abdiquais dans le silence. Comme en réponse à cette peur, Maud Laure répond au personnage de Mélanie dans la deuxième partie. Ça se traîne à comprendre, ne rien négliger malgré le flot dévergondé des mots, susciter de l'événement, oui, un dialogue, obliger Mélanie à la conversation, l'installer au bord de la piscine et la faire parler. C'est de ce fameux dialogue dont il est question dans cette entreprise de traduction. Cependant, l'entreprise passe davantage par la réécriture que la traduction à proprement parler, puisque ce premier livre à traduire est bel et bien livré en français. Mais on a beau passer du français au français, l'idée reste celle de trouver une langue à soi, de se réapproprier des mots qui échappent, des mots qui échappent et d'en refomenter l'essence. Nous n'avons d'autres repères que nous, écrit Maud Laure. Nous sommes entourés de signes qui invalident notre présence. S'entrevalider, se donner entre femmes, légitimité et substance, voilà la quête à laquelle se sont astreintes Maud, Mélanie, Laure et bien entendu Nicole Brossard. Alors, le récit de Brossard apparaît comme beaucoup plus ambigu et mystérieux que celui de Bercianic. Le personnage de la narratrice, une adolescente de 15 ans, Mélanie, côtoie celui de sa mère, Cathy Kerouac, et de l'amoureuse de celle-ci, Lorna Maher. My-her comme la mienne, elle ou ma-elle. Les jeux de mots sont fréquents dans l'œuvre de Brossard, tout comme l'œuvre de Bercianic. Et ce triptyque n'est pas sans rappeler celui que Le Guélion appelle Sainte Trigénie. On retrouve également le personnage de Gratie, sœur éloignée de Mélanie, née pourtant de père et de mère différents. Mélanie explique en ces termes leur statut de sœur éloignée. Leur mère les avait nommés un soir alors que toutes deux enceintes s'étaient séduites et partagées comme un espoir de 24 heures. Nous étions des filles espérées dans la nuit de nos mères amantes. Dans le désarmauve, les femmes s'aiment, se reconnaissent et se supportent tandis que les hommes sont absents. Absents à part pour cet homme long, obsédé de chiffres, d'explosions et de destructions, qui plane comme une ombre inquiétante sur le récit, s'immisçant ça et là entre la narration de Mélanie. L'homme long qui en viendra à assassiner Angela Parkins, une géomètre dont la mère de Mélanie n'a de cesse de parler, semble impuissant. En contrepartie, Angela Parkins incarne la sensualité féminine. Elle est l'emblème de la figure lesbienne, désirante et désirée. Dans l'extrait précédent l'assassinat de Parkins par l'homme long, sa présence est ainsi décrite. Le corps d'Angela est fanatique, rempli d'urgence. Il bondit comme un animal fougueux, capricieux, voltige et plane éperdument. Je ne connais pas vraiment Angela Parkins et voici pourtant nos cœurs rapprochés un instant. Nous sommes inséparables et distantes en pleine éternité. L'homme long réagit furieusement à ce désir lesbien dont il est exclu. Je cite Nicole Brossard dans un essai qui, elle dit « Toute lesbienne est intolérable parce qu'elle déçoit, offense ou invalide le sens patriarcal. Elle défie le sens commun. Elle rend folle de bonheur et fou d'horreur. » L'instant plus tard, le corps d'Angela Parkins repose inerte et Mélanie achève sa narration sur ces mots. « Il y a des mémoires pour creuser les mots sans souiller les tombes. Je ne peux tutoyer personne. » Qu'entend-elle donc par là? Évoque-t-elle cette importance du « je » et du « nous » d'une communauté englobante qui écarte ce « tu » qui sépare au lieu de rapprocher? Qu'essaie de dire Brossard au moyen des mots de son héroïne? Il serait bien entendu difficile et encore plus inutile de répondre avec certitude. Et justement, c'est dans cette ambiguïté que réside le jeu d'exploration du langage propre à Brossard qui articule et désarticule, qui trouble et défait avant de dire et de laisser entendre. Son entreprise est polymorphe, hétérogène. Par ailleurs, comme l'explique Patricia Smart, l'émergence d'une culture au féminin passe nécessairement par cette bigarrure. Je la cite. Il faudrait donc que la modulation différente de la pensée qu'est le féminisme soit autre que la temporalité linéaire et homogène de la tradition patriarcale, qu'elle épouse le rythme de l'expérience individuelle, étiquette, soit tu n'écoutes une pensée qui habite le réel et coïncide avec l'expérience du lieu originel. N'ayant pas pris part à la démarche impérialiste de la pensée patriarcale, les femmes sont dans une situation privilégiée pour donner une voix à ce silence, c'est-à-dire à ce qui est resté non pensé dans la culture patriarcale. Les ouvrages de Bercianic et de Boissard n'ont, au fil du temps, perdu ni de leur importance ni de leur pertinence. Leur combat semble avoir peu changé de depuis, et loin sommes-nous encore de l'ère tant attendue du post-patriarcat. Ces formes postmodernes féministes ont fortement influencé, consciemment ou non, des auteurs de notre génération. On peut penser par exemple à la polyphonie des voix féminines chez Michaela Nicole, au paroxysme autodiégétique chez Maud Veilleux, à la poésie en prose mêlée de synopsis et d'allusions intertextuelles de Vicky Gendreau, et à l'intégration de listes de conversations téléphoniques et d'échanges épistolaires dans l'œuvre de Lily Pinsonneau. Encore, nous en sommes à mettre au jour notre parole singulière de femme. Encore, nous continuons à transgresser un langage et une littérature qui restent l'apanage des hommes, et encore, nous peinons à être écoutés, bien que de plus en plus entendus. En guise de conclusion, je me permets d'emprunter les mots de Brossard, qui, comme beaucoup des auteurs de sa génération, a supposé les bases de cette culture au féminin, culture qui, je l'espère, ne cessera de proliférer, de prendre de l'ampleur et de l'épaisseur. Je ne crois pas que l'on puisse être une femme rebelle sans la solidarité des autres femmes, sans avoir en pensée son sujet d'identité, d'intérêt et de désir. Il me semble important aussi de dire que pour moi, une femme rebelle est une femme ludique, et qu'elle est belle ensemble, comme le sont les créatrices, les fricatelles, les urbaines radicales, les penseuses hot dont j'aime les soupirs, les colères, la lucidité, les jeux de mots. Voilà.